Bonjour à tous. Je finis de me préparer et je suis à vous. Comme ça, je peux utiliser cette période de tremblement pour que ça passe et après, ça ira mieux. Je ne sais pas pourquoi, il y a des fois où c'est plus difficile que d'autres. La préparation a été plus ardue aussi, je ne sais pas pourquoi. Je vais vous partager un texte qui m'a tellement nourrie. Chaque jour, je suis dedans, ça me nourrit tellement. Mais pour le structurer, pour pouvoir le redonner, quelle gymnastique dans ma tête. J'ai hâte, dans la formation que je suis, j'ai hâte d'avoir des cours qui nous expliquent comment préparer une prédication. Peut-être que je mets trop d'espoir, mais j'ai hâte que les choses soient plus faciles dans ma tête. Ce matin, j'aimerais vous parler d'intimité. D'intimité avec Dieu, bien sûr, de notre intimité avec Dieu. Parce que être sauvé, c'est bien. C'est même essentiel. Avoir la vie éternelle, avoir cette espérance, l'espérance du salut, c'est quelque chose d'essentiel, on est d'accord. Mais il y a plus. Dieu nous demande plus. Parce qu'une fois qu'on est sauvé, on doit entrer dans une vie de consécration. Et cette vie de consécration, elle débouche sur des actes concrets, à tel point que ça transforme des vies. Et c'est parce qu'il y a des gens qui étaient consacrés et qui ont eu des actes concrets que nos vies, à chacun d'entre nous, ont été transformées. Si personne ne nous avait partagé l'Évangile, si personne avait pris le soin de l'écrire, il ne se serait rien passé. Donc la consécration, la vie de foi, le salut doit déboucher sur des actes concrets qui transforment les vies. Et ce n'est que dans l'intimité avec Dieu et l'obéissance que nous pouvons progresser, que nous pouvons avoir cette relation privilégiée avec Dieu. Et moi j'aimerais que ce matin on ait envie. J'aimerais vous faire envie. Et c'est là toute ma difficulté, alors que le Seigneur pallie à tout ce que moi, je n'arriverai pas à faire, que le Saint-Esprit vous donne cette envie de développer cette intimité avec Dieu. Et heureusement, on a des exemples dans la parole. Alors, je vous propose de vous lire l'histoire de la conversion de l'apôtre Paul. Et pour vous expliquer le contexte de quand ça se passe, pour voir à quel moment se passe cette histoire, le contexte, c'est qu'au chapitre 7, on a Étienne, un disciple de Jésus, qui se fait lapider à cause de sa foi. Il se fait lapider par des religieux, par des gens qui ont aussi la foi, mais pas la foi en Jésus. Des gens qui sont étroits d'esprit, qui sont légalistes, religieux, et qui n'ont pas voulu recevoir Jésus-Christ, qui n'ont pas voulu recevoir le salut par grâce. Donc, Étienne s'est fait lapider. Et au début du chapitre 8, on peut lire « Saul, ou Paul, approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. » Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Voilà le contexte de notre histoire. Alors, je vous lis l'histoire de la conversion de Paul, en tout cas une partie. Je suis dans Acte 9. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendait chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui, afin qu'il retrouve la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Nous avons 2 protagonistes principaux dans ce passage. Un homme en mouvement que Dieu arrête, Paul. Un homme à l'arrêt que Dieu met en mouvement, Ananias. Alors, commençons par Paul. Ce n'est pas trop de lui que j'aimerais parler, mais on est toujours dans le contexte pour bien comprendre la situation. Si on prend le début du passage que je viens de vous lire, les premiers versets, « Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. » Ça, c'est l'état de son cœur. Donc Paul, il a son cœur qui est tordu, qui est plein de haine, plein de ressentiment, et il est en mouvement. Il va à Damas. Alors, pourquoi Damas ? C'est peut-être un peu petit, je ne sais pas si vous voyez. Moi, je suis aussi petite. Je suis sauvée, voilà. Paul part de Jérusalem pour aller à Damas. Damas, c'est la capitale de la Syrie. Et Damas est arrosée, enfin toute la région de Damas est arrosée par 2 rivières principales. Ce qui fait que cette ville, cette région, c'est un oasis au milieu de terres arides. Donc, il y a une grande population. Et en plus de ça, c'est un carrefour pour les convois des caravanes. C'est un carrefour important parce qu'il y a une route qui mène à la Méditerranée qui permet de redescendre pour rejoindre l'Égypte. Il y a une route qui monte au nord jusqu'à Alep. Il y a une route qui part jusqu'en Irak et une autre qui descend sur l'Arabie. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde à Damas. Et en plus, il y a beaucoup de synagogues. Les synagogues, c'est un lieu d'enseignement, c'est un lieu de culte, c'est un lieu social. Donc, il y a beaucoup de juifs. Mais en plus de ça, beaucoup de Juifs ont fui Jérusalem depuis le meurtre d'Étienne. Alors ils sont partis en Judée, ils sont partis en Samarie, et il y en a qui sont partis à Damas. Donc si Paul veut éradiquer l'église de Jésus, il faut aller là où il y a une grande concentration de ces gens d'église, de ces chrétiens. Et Damas, c'est une capitale, donc c'est le lieu où il faut aller frapper fort. Voilà, ça c'est le parcours que Paul a dû faire pour aller jusqu'à Damas. Alors, selon par où on passe, il y a entre 240 et 290 kilomètres. Si on y va à pied, actuellement, c'est 60 heures. Est-ce que Paul était seulement à pied? Est-ce qu'il y avait des chevaux? Est-ce qu'il y avait des chameaux? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quel moyen de locomotion il a pris, mais ça allait plus lentement que maintenant. Donc, Paul, il était prêt à faire tout ce trajet pour aller éradiquer l'Église. Il était déterminé. Et quand il approche de Damas, tchac, en un clin d'œil, il est à l'arrêt. En un clin d'œil, il est stupéfait. Il est frappé de cécité. Non pas que Dieu envoie des maladies, mais Dieu l'arrête. Dieu n'est pas d'accord avec cet état de cœur. Dieu n'est pas d'accord avec cette voie-là. Paul ne peut pas aller plus loin. Pas comme ça, pas pour ça. Et parfois, nous aussi, nous sommes arrêtés. On a tous un parcours de vie différent et on s'est tous convertis d'une manière différente. Il y a des gens qui ont vécu une conversion fracassante, un peu à l'image de celle de Paul. Tout à coup, le Seigneur les a arrêtés. Ils ont rencontré le Seigneur et tchac, ils se sont convertis et ils ont changé de vie. Mais là où j'aimerais vous parler aujourd'hui, moi je parle pour la plupart d'entre vous à des personnes qui ont déjà rencontré le Seigneur, qui lui ont donné leur vie. Parfois en tant que chrétien, sauf si c'est qu'à moi que ça arrive, mais parfois en tant que chrétien, on est aussi mis à l'arrêt. Parfois on stagne. Je ne sais pas si vous connaissez ces périodes où on ne porte pas de fruits, où on prie mais on n'a pas de résultat à nos prières, où on aimerait entendre la voix de Dieu mais on ne l'entend pas. Ou il y a plein de gens autour de nous qui sont pleins d'anxiété et puis qui donnent des paroles, puis qui comprennent des trucs, qui ont des révélations de la parole. Et puis nous, quand on s'y met, ben c'est sec, c'est froid, il ne se passe rien. C'est difficile. Eh bien, je crois que c'est important d'utiliser ces moments-là. C'est important d'utiliser ces moments-là pour demander au Seigneur, mais c'est quoi mon problème ? Révèle-moi mon problème. Dans 1 Pierre 5,5, il nous est dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Tous, dans vos rapports mutuels, ça veut dire les anciens aussi. Les anciens, les jeunes, quel que soit où on se trouve, que l'on soit dans l'humilité les uns avec les autres. Quand on commence à avoir des mouvements d'orgueil, Dieu nous résiste. C'est sa parole qui le dit. La problématique avec l'orgueil, c'est qu'il est subtil. Et parfois, on a ce problème-là et on ne s'en rend pas compte, on ne sait même pas que c'est ça. Parce qu'il se manifeste de plein de manières différentes. Dans Romains 13, 2, il est dit « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » C'est lourd ces versets, c'est difficile. Et c'est difficile de se dire « Mais moi, en quoi est-ce que je peux être concernée par ça ? Qu'est-ce qui fait que je suis freinée ? Qu'est-ce qui fait que je suis à l'arrêt ?» Alors il peut y avoir des questions d'amertume, des questions de jalousie, des questions de rébellion, un mauvais rapport avec l'argent, un non-pardon, une paresse spirituelle. Moi, je crois que c'est ce qui m'affecte énormément, c'est une paresse spirituelle. J'ai envie de plus, mais pour mettre en pratique, pour chercher le Seigneur, pour prendre du temps, pour obéir, c'est difficile. Je pense qu'il peut y avoir tellement de choses qui nous freinent, qui nous mettent à l'arrêt. Et la clé, c'est de demander au Seigneur, mais montre-moi, C'est quoi mon problème? C'est quoi qui maintenant fait que je n'avance pas? Et le Saint-Esprit, dans sa grâce, il nous révèle ces choses. Et quand on les a compris, on se repent et c'est bon, on passe plus loin. Et on peut aller au stade supérieur. Mais ça passe par là, pour chacun d'entre nous. Donc, il y a deux mouvements dans le texte que je vous ai lu. Un homme en mouvement, Paul, et un homme à l'arrêt, Ananias. Mais l'arrêt d'Ananias, il est différent de celui de Paul, parce qu'il est volontaire. On ne nous dit pas comment Ananias est à l'arrêt. On ne nous dit pas s'il reçoit sa vision pendant son sommeil. On ne sait pas s'il est réveillé ou s'il dort. On sait juste qu'il reçoit une vision. On ne sait pas s'il était en train d'exercer une activité. C'est ces choses-là, il n'y a aucun détail. Mais par contre, il est dans le calme. Il a un calme intérieur, il a un arrêt intérieur qui fait qu'il est assez sensible pour entendre la voix de Dieu, pour la reconnaître, pour y répondre et pour avoir un véritable dialogue. Et il ne s'attend pas à ce que Dieu va lui dire. Dieu ne l'a pas averti, à tel jour, à telle heure, je vais te donner une vision, prépare-toi à l'entendre ou à la voir. Tout à coup, paf, c'est là. Ananias, il est à l'arrêt dans le sens où il est en prière, il est en intimité avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous dit qu'il est en intimité avec Dieu? Parce qu'on sait très très peu de choses d'Ananias. On n'en entend pratiquement plus parler dans la parole après cet épisode. Mais à un moment donné, il y a Paul qui témoigne et il raconte l'histoire de sa conversion. Et puis, dans Acte 22, verset 12, il dit, c'est Paul qui parle, il dit, « Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs, qui résidait à Damas, est venu me trouver. » C'est tout ce qu'on sait d'Ananias. On sait qu'il résidait à Damas, on sait qu'il était pieux, qu'il était fidèle à la loi et qu'il était estimé de tous les Juifs. On ne sait rien d'autre. Il n'est pas question de son statut social. Il n'est pas question de sa profession. Il n'est pas question de ses moyens financiers. Il n'est pas question d'un mandat spirituel dans l'église ou la synagogue. Il n'est pas question d'un mandat politique. On sait seulement qu'il avait une vie consacrée et que ça l'impactait tellement de l'intérieur que ça se voyait à l'extérieur pour qu'il soit estimé de tous les Juifs. Et parce qu'il avait cette disposition de cœur, parce qu'il était en communion avec Dieu, parce qu'il avait trouvé ce chemin de la prière constante, à un moment donné, Dieu lui donne une vision. Une vision qui va déboucher sur des actes. C'est sa relation qui est mise en avant. Et parce que Ananias a une telle relation avec Dieu, parce qu'il connaît Dieu, et que Dieu connaît Ananias, Dieu peut lui faire confiance. Il s'est dit, il a regardé un peu qui y avait à Damas, il s'est dit, ce gars-là, je peux lui faire confiance et je peux lui donner ce mandat exceptionnel d'aller trouver Saul de Tarse, le persécuteur de mon église. Il ne pouvait pas choisir n'importe qui. Ananias, il connaissait le Seigneur, mais il ne s'attendait sûrement pas à ce mandat. Mais j'aime beaucoup sa disposition de cœur. Si on regarde au verset 13, déjà Ananias, il a entendu cette voix, il l'a reconnue, il sait que c'est le Seigneur. Il n'y a pas un moment donné, il lui dit, mais Seigneur, est-ce que c'est bien toi? Il le sait, il connaît cette voix, il y est habitué. Et quand Dieu lui dit, lève-toi, c'est-à-dire mets-toi en mouvement, agis, Ananias répond, mais Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Ananias n'est pas en train de se rebeller, de se révolter. Il n'est pas en train de refuser. Il est juste en train de dire, mais là, c'est pas rien ce que tu me demandes, j'ai besoin de comprendre. Explique-moi. Parce que ce qu'il faut bien comprendre dans le contexte, c'est que Paul, quand il est tombé sur la route, il n'a pas commencé à dire à tout le monde, « Les gars, vous inquiétez pas, je suis en train de me convertir. » Ça, il ne l'a pas dit. Il a été arrêté pendant 3 jours. Il voyait rien, il était dans l'obscurité, il mangeait pas, il buvait pas, on n'entend plus parler de lui. Il n'est pas en train d'expliquer ce qui lui arrive. Il est certainement en train de vivre quelque chose d'exceptionnel qui va déboucher sur tous ses enseignements. Mais à ce moment-là, il n'est pas allé dire tout ce qui lui arrivait. Internet n'existait pas. La télé n'existait pas. Il n'y avait pas le téléjournal de 19h30. Il n'y avait pas l'Impartial ou Arc Info. Il n'y avait que le bouche à oreille, qui fonctionnait assez bien, mais pas aussi vite que maintenant. Et puisque Paul était reclus dans un coin, ben les informations qui pouvaient venir, c'est que Paul arrivait à Damas. Et peut-être qu'on sait qu'il s'est passé un truc tellement étonnant que tout le monde est stupéfait et que même ceux qui étaient avec eux sont complètement interloqués, mais on ne sait pas, on n'a pas les détails. Ça, c'est les informations d'Ananias. Il ne peut pas imaginer ce qui va se passer. Mais il dit au Seigneur, j'ai besoin de comprendre. Et Dieu lui répond. Il lui dit, vas-y. Donc, encore une fois, mets-toi en mouvement. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Là, Ananias, il a reçu une réponse. Il comprend quelque chose. Il se dit, mais si Dieu m'envoie comme ça vers un homme pareil, l'instrument qui va être, ce ne sera pas rien. Ça va être quelque chose. Et en plus de ça, il va faire connaître le nom de Dieu aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Qu'est-ce que ça signifie ? Parce qu'à l'époque, la foi au Dieu créateur qu'on connaît, c'était seulement les Juifs qui l'avaient. C'était le peuple hébreu. Et là, tout à coup, Dieu est en train de dire un truc à Ananias qui est assez nouveau. C'est seulement au chapitre suivant que Pierre va recevoir la vision, que Corneille fait ses prières et qu'il faut aller enseigner et convertir les non-Juifs. C'est seulement au chapitre 10, mais là on est au chapitre 9. Ananias, il ne peut pas comprendre ces choses-là. C'est trop tôt. Mais s'il y a quelque chose à retenir, c'est cette intimité qu'Ananias a avec Dieu. Il entend sa voix, il lui pose des questions et il est capable d'entendre les réponses. Parfois, nous, on reçoit des paroles de Dieu, on dit « Ah, Dieu m'a dit ça » ou « J'ai entendu » ou « J'ai cru comprendre ça » ou « Ce verset m'a touché ». Mais des fois, c'est difficile d'aller plus loin. D'aller dire, mais Seigneur, tu peux me l'expliquer, puis dire, et quand j'ai demandé ça, il m'a répondu ça. Et quand j'ai demandé ça, il m'a répondu ça. Des fois, on entend le début. Puis après, il y a toutes nos réflexions, il y a notre intelligence qui se met en route, puis plus rien, on n'entend plus la voix de Dieu. Parce qu'on n'est pas entraîné. C'est pas que c'est inaccessible, c'est qu'on n'est pas entraîné. Alors moi, ce matin, je vous exhorte à chercher à vous entraîner. Si vous avez envie d'avoir cette relation de la même sorte que celle d'Ananias, eh bien, entraînez-vous. Cherchez les moyens, demandez-les au Seigneur. C'est vrai qu'il existe des méthodes. Il existe des livres de prière, des livres de chemin de prière. Il existe des enseignements qui peuvent aider à ça. Et je pense que les méthodes, c'est bien. Ça peut être un outil, une béquille. Moi, j'en utilise. Mais il faut faire très attention, parce que le risque, c'est qu'on passe plus de temps dans la méthode que dans l'application de la méthode. Donc on se remplit de connaissances intellectuelles, mais la mise en pratique, elle stagne, et notre vie est toujours à l'arrêt. Et moi, je vous exhorte à chercher, Seigneur, j'en suis là, j'aimerais aller une étape plus loin. Comment je dois faire ? Comment je dois faire pour te connaître ? Comment je dois faire pour avoir des réponses à mes prières ? Comment je dois faire pour comprendre ces choses spirituellement ? Comment est-ce qu'il faut faire pour que mes yeux spirituels s'ouvrent ? C'est notre chemin logique. Et en même temps, c'est normal que ce soit difficile. Il ne faut pas se culpabiliser ou se flageller si on n'y arrive pas. On est tous touchés par le péché, par la chute, et on se débat tous ensemble, justement, pour aller plus loin. Donc, c'est un combat, c'est difficile, c'est un entraînement, et c'est normal. L'intimité, c'est bien, c'est nécessaire, c'est primordial, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'il faut qu'elle soit suivie de l'obéissance. Et ce que je trouve exemplaire avec Ananias, c'est qu'il n'est pas allé raconter à gauche à droite « Le Seigneur m'a dit, ce gars-là, il va se convertir, il va déplacer des montagnes, ça va être super, non ?» Il n'est pas non plus allé chercher quelqu'un en lui disant « Dis, Dieu m'a dit d'aller trouver Paul, mais tu viens avec moi parce que si jamais ça tourne au vinaigre, comment expliquer ? Je n'aimerais pas être tout seul. » Rien de tout ça. Ananias est tellement sûr de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a compris de Dieu, qu'il est rempli d'assurance. Il est rempli de sagesse, il est rempli d'autorité, il est rempli d'humilité parce qu'il décide d'obéir. Et il est écrit que Ananias s'est levé, Ananias partit, il se mit en mouvement et il alla dans cette rue qu'on appelle la droite, c'est comme le pod ici. Il va sur le pod dans cette maison d'un certain Judas qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où il vient, on n'en entend plus parler, et il va rencontrer Paul. Et là aussi, il ne se la joue pas à la Suisse. Il n'y a pas marqué qu'il frappe à la porte. Il n'y a pas marqué qu'il a envoyé un SMS pour dire « J'aimerais bien passer, est-ce que vous avez 5 minutes ? Quand c'est que ça vous arrange ?» Il n'est pas arrivé en disant « Je ne dérange pas ?» Rien de tout ça. Ananias, une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant « Saul, mon frère ». Il est rempli d'autorité, il est rempli d'assurance, il n'y a pas une once de doute. Et moi, ce qui m'émerveille, c'est qu'une des premières choses qu'il fait, quand il pose la main sur Paul, c'est qu'il lui donne sa nouvelle identité. Paul, mon frère. Si Paul est le frère d'Ananias, alors ils ont le même sang, le sang de Jésus. Il fait entrer Paul officiellement dans la famille de Dieu. Paul n'est plus ce pharisien persécuteur, il est ce fils du Dieu vivant qui fait partie de la famille de Dieu. Donc là, Ananias, qui était un inconnu jusque-là, il vient avec un rôle de père spirituel. Pour l'apôtre Paul qu'on connaît, c'est énorme. Mais l'apôtre Paul, il a eu besoin de ça. Humilité et assurance, humilité et puissance. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la parole, c'est que déjà elle est profonde, mais en plus de ça, elle est pleine de détails qui peuvent nous aider à comprendre les choses encore mieux. Le prénom d'Ananias veut dire « Dieu a fait grâce ». Et en fait, c'est au milieu de tout ce récit de la conversion de Paul qu'Ananias intervient et qu'on répète son nom plusieurs fois. Dieu a fait grâce dans la vie de Paul. Mais Dieu a fait grâce dans notre vie à nous de nous donner quelqu'un qui a été d'accord de perdre sa vie pour évangéliser les nations et nous donner une bonne partie de la parole pour qu'on en parle encore aujourd'hui. Donc Ananias, qui a redonné son identité d'enfant de Dieu à Paul, il est rempli de puissance. Il pose les mains sur Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux, il retrouva la vue. À ce moment-là où Ananias a les mains sur Paul et lui dit ces paroles, Paul reçoit le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'Ananias est rempli de puissance. Et c'est pour ça qu'il tombe comme des écailles de ses yeux. Paul, il était aveuglé spirituellement. Il n'avait pas compris le salut. Et là, les écailles tombent. Tout à coup, ses yeux spirituels s'ouvrent. Il comprend. Et ça débouche sur le baptême d'eau. Et ensuite, directement, il va enseigner dans les synagogues, il va prêcher, il va proclamer que Jésus est bien le Fils de Dieu, le Seigneur et le Sauveur. Il n'attend pas. C'est vraiment impressionnant, Ananias. Et ce qui est impressionnant, c'est ce dont Paul a eu besoin. Paul, il a eu un ministère, personne sur la terre a eu un ministère aussi grand que Paul. Jésus, bien sûr, mais en tant qu'être humain, de la même chair que nous, de la même pâte que nous, Paul est certainement le plus grand, mais il a eu besoin d'un homme. Il a eu besoin d'un autre que lui pour lui donner son identité, pour lui imposer les mains, pour le baptiser du Saint-Esprit, pour le baptiser dans l'eau, pour lui faire rencontrer d'autres disciples. Qu'est-ce qui se serait passé si Ananias n'avait pas eu cette intimité avec Dieu ? Alors, soit on ne serait pas là, soit il aurait appelé quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'il aurait appelé quelqu'un d'autre dans le sens où Dieu est maître de l'histoire et il voulait l'évangélisation du monde. Et la personne qu'il a choisie pour faire le gros démarrage de tout ça, c'est Paul. Et pourquoi est-ce que c'est Paul ? Ben, c'est quelqu'un qui persécutait l'Église. C'est quelqu'un qui a fait énormément de mal, mais c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'était quelqu'un d'instruit, c'était un juif qui avait été enseigné au pied de Gamaliel, donc il avait, mais c'était un puits de connaissances. Il parlait l'hébreu, il parlait le grec, il était citoyen romain, il réunissait tout en lui-même. Et le fait aussi qu'il a été un tortionnaire a fait qu'il a supporté toutes les persécutions qu'il a subies. Des lapidations, il s'est fait fouetter, il a vécu des naufrages, il a été privé de sommeil, de nourriture, etc. Mais il a été d'accord avec tout ça. Il a été d'accord aussi avec le célibat. Donc Dieu voulait cet homme. Donc si Ananias n'avait pas été disponible, je pense qu'il aurait choisi quelqu'un d'autre. Mais la question c'est, et nous ? Ça vous est déjà arrivé de vous dire, Dieu m'a donné quelque chose, il m'a donné un don, une faculté ? Il m'a donné, ou bien il m'a donné un sujet de prière et je l'ai un peu négligé. Et je me rends compte que c'est comme si ce qu'il m'avait donné est parti. Est-ce que vous avez jamais eu peur de vous dire, waouh, Dieu est en train de donner à quelqu'un d'autre ce qu'il m'a donné parce que je n'ai pas su le gérer? Moi, ça m'est arrivé souvent. Chaque fois que je me dis, mais le temps que je passe à préparer des choses, à étudier, à tout ça, quand j'ai des moments de découragement, je me dis, non, mais je pourrais tellement faire autre chose. Je pourrais tellement avoir plus de congés ou plus de temps libre. Ou... C'est quand ça bataille. C'est quand j'essaye de faire une prédication puis que ça coince. Ben je me dis, ce serait tellement plus simple d'arrêter. Puis tout à coup, je me dis, waouh, mais si Dieu donne ça à quelqu'un d'autre, alors tant mieux pour ce quelqu'un d'autre. Mais moi, quand j'aurai des comptes à rendre devant Dieu, je vais lui dire quoi ? Je n'ai pas fait fructifier ce que tu m'as donné. Et je ne peux pas vivre avec ça. Ananias, c'est un homme qui aime Dieu. C'est un homme qui le cherche. C'est un homme qui se laisse instruire par Dieu. Et là aussi, où il est impressionnant, et je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre ici, ici dans l'Église, mais aussi pour l'extérieur, c'est que Ananias a compris certainement quand Dieu lui dit « Je vais faire un instrument qui va parler au roi, aux non-juifs, aux Israélites. » Ça veut dire un homme qui va avoir un ministère bien plus grand que le tien. Quand nous, on discerne dans une personne, que ce soit un jeune ou une personne qui vient de se convertir ou qui est en train de se lever spirituellement, qui vit un réveil, quand on voit ces choses-là, est-ce qu'on a l'humilité d'aller vers cette personne pour la bénir, pour la lever, pour dire « tu vas me dépasser, tu vas me dépasser dans ton don prophétique, tu vas me dépasser dans ton enseignement, tu vas me dépasser dans tes exaucements de prière, tu vas me dépasser dans la louange ». Et je crois que ça, c'est une chose que chacun d'entre nous, on peut faire. Quand Dieu nous donne quelque chose pour quelqu'un, c'est d'aller le redonner. C'est de prier, c'est de bénir, c'est de lever. Moi, c'est quelque chose dont j'ai bénéficié. J'en ai bénéficié par Leïla, il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. Un jour, elle m'a dit, je vois que tu es comme un vase ouvert, prête à recevoir des choses de Dieu. Et elle m'a dit, si tu veux, on va intercéder ensemble. Et il y a eu je ne sais pas combien de séances dans les petites salles là en dessous. Il y avait Romana aussi avec nous. Et les trois, on a prié, prié, prié. Et j'ai reçu, 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 reçu. Et ce que Leïla me racontait, me rappelait la semaine passée, c'est qu'à un moment donné, elle m'a dit que j'allais enseigner. Et je lui aurais répondu, mais je ne m'en souviens pas. Je sais, mais ce n'est pas pour tout de suite. Voilà. Ben moi, je n'ai aucun souvenir de ça. Et tout à coup, je suis là. Mais il y a eu deux sœurs là que Dieu a mandatées, qui ont vu quelque chose en moi que moi-même, je n'avais pas forcément vu. Et elles ont persévéré. Elles ont persévéré. Et aujourd'hui, bah, tout à coup, il y a des choses qui se sont passées. On a besoin les uns des autres. On ne peut pas exercer notre ministère tout seul. Mais on a besoin de repérer dans les autres qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qu'est-ce que Dieu a donné, et puis d'essayer d'aller lever cette personne. Ça, c'est l'humilité d'Ananias. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas eu peur que Paul le dépasse. Et rempli de puissance, il a pu poser des actes avec efficacité. Et on est les bénéficiaires aujourd'hui. Et en 2019, le 4 août, à la Chaux-de-Fonds, on parle encore d'Ananias, qui était un illustre inconnu et qui le reste presque encore. Alors ma conclusion, serrons-nous les coudes et soyons des Ananias. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour la puissance que tu as mise dans ta parole. Je te remercie pour la puissance que tu déverses dans les personnes qui sont d'accord de te dire oui, de se mettre à ton service. Je te remercie de ce que tu as déposé ta puissance, ta disponibilité, ta bonne disposition de cœur dans Ananias. Je te remercie pour l'exemple qu'il est pour nous. Je te remercie pour ce que ça a donné dans la vie de Paul et dans notre propre vie. Et Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit, je te demande de venir nous rejoindre là où nous en sommes chacun d'entre nous, pour que nous puissions aspirer à cette intimité qui fait que même quand on ne s'y attend pas et que tu nous parles, on soit capable d'entendre ta voix, de la reconnaître, d'y répondre et d'obéir. Je te demande de nous aider à grandir spirituellement, à aller de l'avant, chacun là où on en est, à notre niveau, à notre rythme. Montre-nous où tu aimerais nous emmener. Je te remercie parce qu'il n'y a pas d'âge où ça s'arrête. C'est jusqu'au bout. C'est passionnant la vie avec toi. Merci Seigneur, je te bénis, je te rends gloire. Que nous soyons des instruments efficaces dans tes mains, pour nos contemporains et même au-delà. Sois béni Seigneur. Amen.